Chers fidèles, chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 30 mai. Cette année, c'est la vigile de la Pentecôte. Nous poursuivons notre lecture spirituelle du livre Notre-Dame dans ma vie du Père Bernadeau. À la septième partie de l'ouvrage, Notre-Dame nous mène à la perfection. Au chapitre 4, Notre-Dame nous unit au sacrifice du Christ. La douleur du cœur est plus terrible, mais aussi plus bienfaisante. À quelle profondeur ne descendent pas les séparations, déchirements et ces tristesses jusqu'à l'agonie. C'est surtout alors qu'il faut regarder Marie. Dans son cœur, elle souffrait bien plus que dans son corps. La profondeur de son union avec son Fils augmenta sa douleur de façon inouïe. Elle eût moins souffert si elle eût moins aimé. Elle souffrit seule. Celui qui eût pu la consoler, le seul qui comprenait sa douleur, Jésus, était justement la cause principale de son agonie. Elle dut souffrir sans sympathie, et c'est affreux. Elle nous apprend à souffrir pour Jésus. « Je suis cloué à la croix avec le Christ », disait saint Paul. Combien c'était plus vrai de Marie. Associée à l'œuvre de la rédemption, sa qualité de mère lui valut d'y entrer plus avant que tous. C'est ne rien dire que d'affirmer qu'elle ressentit par sympathie les douleurs de son Fils. Elle entra dans cette douleur, elle la fit sienne, elle se l'identifia. À vrai dire, il n'y eut qu'une passion subie à la fois par le Fils et la Mère. Notre-Dame le disait à sainte Brigitte. Dans sa passion, sa douleur était ma douleur, parce que son cœur était mon cœur. Comme à l'incarnation, elle avait livré son corps à Dieu pour que le Verbe prît dans son sein notre nature. Au calvaire, elle livre sans mesure son corps, son cœur, son âme, pour subir avec son Fils le martyre qui nous rachète. Elle souffrait pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est à nous qu'elle pensait. C'est la mère qui souffrait, la mère de Jésus, mais aussi la mère des frères de Jésus, la mère de miséricorde, l'avocate des pécheurs. Aussi ne peut-on découvrir la moindre indignation. Son Fils se livre à la justice de Dieu, mais appelle le pardon sur ceux qui le crucifient. C'est ce qu'a fait sa mère. Les bourreaux de son Fils sont aussi ses enfants. Comprenez-vous l'atroce douleur? L'enfant de sa chair virginale, Jésus, mis à mort par ceux que dans une tendresse ineffable, elle enfantait dans son cœur. N'oubliez pas les gémissements de votre mère, nous dit l'Écriture. Notre-Dame veut nous unir à la passion de son Fils. Nous avons été une partie de cette passion. Dans l'immolation du Christ, nous n'étions pas des spectateurs, mais des agents. Et à vrai dire, des bourreaux. C'est par nos péchés que le Christ est mort et que Marie a supporté cet affreux martyr. Notre-Dame veut qu'aujourd'hui encore, nous prenions part à la passion, mais par amour maintenant et comme dit saint Paul, pour achever dans notre chair ce qui manque encore aux épreuves du Christ. Nous aussi nous devons avoir notre compassion aux douleurs du Rédempteur, compassion par l'union de la foi et l'amour, par l'action de la pénitence et de la douleur. C'est la condition de notre salut. Nous sommes héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, à condition que nous souffrions avec lui. Il faut continuer l'œuvre rédemptrice du Christ. L'Église vit de son sacrifice. Ce sacrifice est reproduit tous les jours à l'autel, mais aussi continué dans les membres de Jésus qui souffrent. La souffrance des chrétiens est nécessaire au salut du monde. Elle est source de vie. Elle expie, elle rachète, elle sanctifie. Quand Dieu nous fait l'honneur de nous appeler à la souffrance, réjouissons-nous. Jésus se livre à nous dans tous ses mystères, mais nulle part comme au mystère de la croix. Il y a des échanges d'amour qui ne se font que dans la douleur. C'est au calvaire que Jésus a donné sa mère à Jean. C'est une grâce que Dieu vous a faite par égard pour le Christ, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Notre-Dame nous enseigne à souffrir en silence, dans le secret. Le silence est l'atmosphère de la douleur. On se taisait au calvaire. On perd ce qu'il y a de plus sanctifiant dans la douleur en se plaignant, en racontant ses chagrins, en cherchant des consolations. Ne dissipez pas cette grâce précieuse. Comprenez-vous l'union de cette âme à Dieu? Celui qui vit dans l'esprit de sacrifice fait plus que suivre Jésus. Il pénètre au cœur de son mystère. Il peut dire comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. » Jésus disait à la bienheureuse Angèle de Foligno, « Ceux qui aiment et suivent la voie que j'ai suivie, la voie des douleurs, ceux-là sont mes fils légitimes, ceux dont l'œil intérieur est fixé sur ma passion et sur ma mort. Sur ma mort, vie et salut du monde, sur ma mort et non pas ailleurs, ceux-là sont mes enfants légitimes, et les autres ne le sont pas. » Avec la liturgie, demandons à Notre-Dame de nous donner cet esprit de sacrifice, d'être immolée avec son Fils. Mère, les plaies du crucifié, enfoncez-les dans mon cœur fortement. Chapitre 5. À la gloire de la Sainte Trinité. L'essence de la vie intérieure est la dévotion à la Sainte Trinité. Il est de toute nécessité pour la piété de nourrir des sentiments spéciaux pour chacune des trois personnes. Amour filial pour le Père qui nous a donné son Fils unique. Confiance absolue au Verbe notre Rédempteur et Médiateur universel, abandon au Saint-Esprit, l'hôte de notre âme, notre guide, notre maître, notre pourvoyeur dans la vie spirituelle. La sainteté est l'union inexprimable de Dieu avec lui-même dans la Trinité des personnes. Cette adhérence infinie du Père et du Fils dans l'unité du Saint-Esprit, ce mouvement d'amour consommant leur unité et mettant le comble à leur béatitude, et qui fait que Dieu trouve en lui toute sa félicité, dans sa nature et dans l'union des trois personnes, c'est la sainteté divine. Dieu est saint parce que la perfection de sa nature le sépare infiniment de ce qui n'est pas lui, et qu'il est infiniment heureux dans l'étreinte vivante que les trois personnes se donnent à elles-mêmes. De même, Notre-Dame est sainte. Son nom incommunicable est la Sainte Vierge. Elle est sainte parce qu'elle est vierge. La virginité, c'est l'intégrité, l'absence de division. Elle est sainte parce que, établie en Dieu à sa création, elle n'a jamais cherché aucune adhérence en dehors de Dieu. Elle a vécu en Dieu toute tournée vers Dieu. Pour nous, la sainteté ne peut être que l'imitation de cette sainteté de Dieu. Adhérer à Dieu par l'intelligence, la volonté et les actes extérieurs de façon à n'être qu'un avec lui, comme dit saint Paul, qu'un seul et même esprit. C'est réduire tout à l'unité, n'avoir besoin que de Dieu. Qui nous fera gravir ce sommet de notre vie? Encore Notre-Dame. Par sa virginité, elle est la fille très uniquement aimée du Père. Elle nous introduira dans l'adoption divine, par elle nous deviendrons des fils. Par sa maternité divine, elle est la mère du Fils unique de Dieu. Elle fera de nous des frères de son premier-né. Par sa maternité humaine, elle est l'épouse de l'Esprit-Saint. Par elle, nous entrerons dans le corps mystique. Les grâces de la rédemption découleront d'elle à nous. Marie est la fille souverainement privilégiée du Père. Toute la beauté que Dieu a pu réunir en une créature, il en a doté Marie. Il a voulu que la plénitude de la nature et de la grâce se condensât en une créature qui n'est que créature, qui manifeste l'idée première de Dieu dans la création. C'est la mère de son Fils. Elle a reçu plus de dons que tous les anges et les hommes ensemble. Tout ce que le Père avait rassemblé de splendeur dans la création angélique, tout ce qu'il avait mis de vie et de vertu dans la création des hommes, il le rassemble et le dépasse dans la formation de la mère de son Fils. Seule elle est pleine de grâce, cela dit tout. En elle, vous pouvez lire, plus que dans toutes les créatures, la puissance et l'amour de Dieu. Elle est le miroir de l'invisible, autant qu'une créature peut l'être. La liturgie nous dit que l'incarnation avait pour but de nous faire parvenir à l'amour du Père invisible par la connaissance du Fils devenu visible dans la chair. Dieu ne doit pas rester dans une lumière inaccessible. Celui qui est notre vie, notre lumière, doit être à la portée humaine. Il s'est donc manifesté dans le Verbe incarné d'abord, et puis dans Marie. En Jésus, Dieu au milieu de nous, en Marie, forme idéale de la créature unie à Dieu. Ainsi pouvons-nous savoir en Jésus ce que Dieu est pour nous, et en Marie ce qu'il désire que nous soyons pour lui. Cette création de la Vierge dans la gloire de la virginité et de la grâce la rendait déjà l'objet unique des complaisances du Père. Mais leur intimité s'est approfondie à un degré inouï lorsque Notre-Dame a enfanté le Verbe. Ici, la parole est impuissante. Pour établir avec vous, dit Bossuet, une société éternelle, il a voulu que vous fussiez mère de son Fils unique et être le Père du vôtre. Ô prodige, ô abîme de charité! Quel esprit ne se perdrait pas dans la considération de ces complaisances incompréhensibles qu'il a eues pour vous, depuis que vous lui touchez de si près, par ce commun Fils, le nœud invisible de votre sainte alliance, le gage de vos affections mutuelles que vous vous êtes donnés amoureusement l'un à l'autre. Notre commun Fils. Dieu le Père et Marie se rencontrent dans un centre d'amour commun, Jésus, leur Fils unique. Ils se disent dans une ineffable union, ce qui est à moi est à toi. Seule l'union des trois divines personnes dépasse l'union du Père et de la Vierge. Ces deux personnes sacrées, le Père qui est au ciel et la Mère qui est en la terre, sont maintenant liées et ont aussi pour lien de leur union sainte une personne divine, un même Fils, unique, procédant d'eux et qui est entre eux le lien indissoluble auquel ils sont conjoints pour une éternité. Cette union se poursuivra plus loin encore. La maternité de Notre-Dame ira aussi loin que la paternité de Dieu. Mère du Fils par nature, elle devient mère des fils d'adoption. Dieu a des enfants, mais par elle. Si la grâce donne des enfants au Père, ne les doit-il pas à Notre-Dame? Pour former le corps mystique du Christ, il fallait donc d'abord l'incarnation et le fiat de Marie. On devine la conséquence. C'est par Notre-Dame, notre Mère dans la grâce, que nous apprendrons à agir comme fils de Dieu. Toute notre vie surnaturelle repose sur la filiation éternelle du Verbe. Notre filiation adoptive, nous dit saint Thomas, est l'assimilation à la filiation du Verbe éternel et nous fait participer à l'unité du Verbe avec son Père. C'est le fond de notre être surnaturel. Mais il faut que nos actes découlent de cet état. Vivre, prier, travailler, souffrir comme enfants de Dieu. Imiter Dieu comme des fils bien-aimés, marcher comme des fils de lumière. Et quand vous prierez, vous direz « Notre Père ». Chers fidèles, chers amis, bonne journée, que Dieu vous garde et que Notre-Dame de Lourdes intercède pour nous.